Mes frères bien-aimés, si nous avions visité Jéricho au temps du Christ, sans doute aurions-nous souhaité y vivre. La ville était splendide, aussi vaste que Jérusalem. Elle possédait un amphithéâtre, un hippodrome, et des piscines étaient alimentées par des canaux qui allaient capter l'eau de sources lointaines. Malheureusement, malgré tout le confort et tout le luxe qui nous attire toujours, eh bien, il faut dire que malheureusement, la ville était dirigée par quelqu'un qui n'était pas très droit. Le fils d'Hérode, un certain Archélaüs, qui fut un monarque en vérité peu estimable, particulièrement débauché et cruel. Le climat n'était donc pas très bon. Climat moral, bien sûr, mais aussi climat atmosphérique peu satisfaisant. En effet, comme vous le savez, la ville située au fin fond d'une cuvette connaissait des nuits très humides, suivi de journées brûlantes chargées d'une poussière fine et infestées de mouches. Voyez que ça vous plaît déjà moins. Et l'on a pu même affirmer que cette configuration géographique et climatique avait donné lieu à de nombreux cas d'ophtalmie purulente, aboutissant à la cécité complète. Quoi qu'il en soit, le héros de ce jour offert par l'Évangile est bien un aveugle, dont saint Marc a gardé précieusement son nom, Bartimée, le fils de Timée. Tout laisse donc penser qu'une fois converti par le Christ, cet homme dut être célèbre et faire partie de la première communauté chrétienne. Bartimée, mes frères, voilà un beau prénom de baptême pour ceux qui veulent y voir clair dès les premiers jours de leur vie. Au moment même où Jésus rencontre cet homme, nous sommes à une semaine de la Passion. Et c'est pourquoi le Sauveur semble multiplier les miracles et les enseignements, ne perdant pas une seconde de son temps qui est désormais compté. Et je l'imagine volontiers, virevoltant, enveloppé d'une foule innombrable, le suivant partout où il va, une foule à la mesure de son charisme qui attire et qui retient. Le Messie n'a donc plus une seule minute à perdre, il cherche de son regard divin à droite puis à gauche la personne à sauver, à guérir, à éclairer. On se bouscule, on espère toucher le Maître, mais Jésus doit avancer et marcher résolument vers sa croix, et c'est ce qu'il fait. En outre, Jésus est sans doute protégé par un cordon d'apôtres qui repousse les gens en arrière. La foule est en liesse. Et Bartimée, lui, dont l'oreille est développée comme celle de tous les aveugles, entend depuis longtemps ce bruit de masse qui avance. Et il s'enquiert de savoir les raisons de ce brouhaha. « Mais c'est Jésus de Nazareth !» rétorque un passant, tout émoustillé de joie. De son côté, Bartimée sait, comment je n'en sais rien, mais il le sait, il sait que Jésus est le Messie. Il aura sans doute entendu parler des grands signes qui accompagnent sa parole et qui la rend crédible. Partout l'on raconte que ce Jésus pardonne les péchés, expulse les démons, guérit les malades, ressuscite les morts, rend la vue aux aveugles, quelle aubaine. Pour Bartimée, c'est donc évident, seul Dieu peut en faire autant, pas de doute chez ce mendiant qui ne s'en fait pas compter. Jésus est donc bien le Messie, se dit-il, en tremblant d'espérance. Il est le fils de David annoncé par les Écritures. Il faut donc que je lui parle, se dit-il en lui-même. Il faut que je le voie, moi qui ne vois rien. Maintenant, la foule n'est plus très loin. Le bruit des pas et des voix envahit les chemins et se rapproche. Le Christ entre en cet instant dans la ville de Jéricho, sous les acclamations. Nous y sommes, mes frères, quand soudain, la voix de Bartimée, c'est le moment, se fait entendre comme un cri aussi strident que désagréable, un cri de désespoir à vous arracher les oreilles. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Un cri chargé de toute la peine du monde, qui reprend son souffle et se répète, un cri de désespoir chargé d'espérance. La foule veut le faire taire, tais-toi Bartimée. Mais il n'y a rien à faire, on n'arrête pas la foi quand elle se lance à corps perdu en direction de Dieu, réclamant la pitié. La pitié, mes frères, cette pitié qui est si mal vue aujourd'hui. À tort, nous n'aimons pas ce mot de pitié que nous trouvons presque dégradant. Être aimé de pitié nous révulse. Et pourtant, le sentiment de pitié qui saisit un homme à la vue de la souffrance et qui le porte à vouloir soulager celui qui l'a subi est un joyau qui, à la suite du Maître, doit parer le cœur vraiment chrétien. Car un cœur qui ne compatit pas, mes frères, qui ne prend pas pitié, un cœur qui ne s'arrête pas sur la misère d'autrui, c'est un cœur sec, un cœur dur, un cœur mort. Le Christ avait pitié des foules sans berger, et les foules furent heureuses de se savoir ainsi aimées. Aujourd'hui, il s'avance donc vers Bartimée, qui ne craint pas, lui qui n'a rien, de mendier la pitié rafraîchissante de Dieu. Mes frères, souvent, et nous avons tort, nous ne voulons pas de la pitié des hommes, parce que l'amour propre est en nous, plus vivant que l'amour. Or, nous avons tous besoin de la pitié des autres, à commencer par celle de Dieu. Nous avons besoin de son regard qui se penche sur nos misères pour les considérer, les détruire et nous consoler. En notre temps, malheureusement, à force de jouer les forts, les caïdes, nous en sortons plus faibles, plus abandonnés et plus seuls. Aujourd'hui, et c'est devenu presque un réflexe social, on dit à ceux qui nous entourent, « Ne vous inquiétez pas, je vais m'en sortir tout seul !» Et c'est là que l'on commence à s'enliser. Je vous en supplie, mes frères, quand les choses nous blessent, quand la coupe est remplie d'amertume et que la peine déborde de toutes parts, crions, crions comme Bartimée, d'abord vers le Christ, au pied de ses autels et de sa très sainte Eucharistie, et disons-lui, « Aie pitié de moi, Seigneur, je n'en peux plus !» Il n'y a pas, mes frères bien-aimés, de prière plus forte que celle-ci, et qui ait le plus de chances d'être exaucée, car cette prière, c'est celle du petit, c'est celle du faible, du fragile, de l'enfant pauvre, qui ne dispose pas de solutions humaines, et qui se tourne vers Dieu, dont le cœur se fait pitié. Voilà la prière que Dieu exauce, la seule qui lui plaise vraiment, parce qu'elle vient d'un être humble, où l'amour propre n'existe plus. Mes frères, faut-il le rappeler, Dieu n'exauce que les humbles. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ce cri de Bartimée, ne croyez surtout pas que c'est le cri d'un mendiant qui fait son numéro, non. C'est le cri d'un homme et d'un saint qui se positionne parfaitement devant Dieu. Les mots qu'il prononce sont d'une justesse absolue. Et c'est pourquoi sur sa route, Jésus s'arrête net. La foule se tait comme par enchantement, et l'on entend la voix du Christ demandant à Bartimée de s'approcher. « Viens ici !» Lui, le pauvre, l'oublié des trottoirs, lui dont la voix nous agace, c'est celui-là que Dieu appelle. D'un bond, il jette son manteau, et sans rien y voir, au risque de trébucher et de tomber, il court, dit l'Évangile, jusqu'au pied de Jésus. Un aveugle qui court, mes frères, qu'en pensez-vous? Que du bien, je l'espère, parce que lorsque l'amour est là, il nous fait courir, il emporte toutes nos peurs, il nous fait dépasser nos limites et nous donne des ailes. Bartimée est à présent devant le Christ qui est la lumière du monde, il le pressent mais ne voit rien. Et là, au miracle, une question du Christ retentit, merveilleusement féerique. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» dit le Christ. À ce grand pauvre ignoré de tous. Mes frères, comment peut-on ne pas aimer le Christ de toutes nos forces quand on le voit, lui qui est Dieu, partir de nos désirs, de nos attentes, pour venir avec sa pitié délivrer l'homme de tous ses maux. Et oui, Dieu dit à l'aveugle, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? Ce serait à l'homme de parler ainsi à Dieu. » Que veux-tu, Seigneur, que je fasse pour toi? Mais c'est le contraire que Dieu nous impose. En amour, mes frères, personne ne dépassera jamais le Seigneur. Cela doit nous réjouir et plus encore, nous rassurer. Oui, Dieu est le grand amant de l'humanité à laquelle il est attaché comme une mère l'est à ses enfants, désireux de les exaucer toujours, à condition bien sûr que la prière vienne du fond du ventre et qu'elle appelle la pitié de Dieu. Mais aussi, il faut aussi que nous courions vers Jésus avec cette foi et cette confiance éperdue qui caractérisait notre frère le mendiant. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» lui dit Jésus. « Rabouni, répond-il, c'est-à-dire « Maître, rabouni, fais que je voie !» Et l'amour, ne se faisant pas attendre, répond « Va, dit Dieu, ta foi t'a sauvé. » Et les yeux de l'homme s'ouvrent d'un coup sur la lumière née de la lumière, sur le Christ qui récompense toujours la vraie foi, la foi parfaite, celle que Dieu attend et espère aussi de notre part. Vivre de la foi parfaite, mes frères, ce doit être notre idéal. Et pour le rejoindre, il n'y a rien à faire, il faut ressembler à Bartimée. Qu'est-ce que le Christ lui a trouvé de si exceptionnel à ce pauvre homme, pour qu'il s'arrête sur son cas, pour qu'il l'écoute, pour qu'il l'exauce et qu'il inscrive son histoire dans le Saint-Évangile, afin que nous la connaissions jusqu'à la fin du monde? Eh bien, ce qu'il a trouvé de merveilleux en cet être, c'est la justesse de son cri. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» En effet, voyez mes frères, ce cri manifeste l'essence même de la foi, qui n'est ni une idée, ni un concept, ni un message. Ce n'est même pas une morale. Et ce n'est même pas « aimez-vous les uns les autres, soyez gentils, honnêtes et respectueux ». D'autres êtres qui n'ont pas la foi peuvent vivre dans une attitude d'amour permanente, et tant mieux. Non, la foi, c'est la confiance dans le Christ que nous appelons Maître et Seigneur et qui a pour prénom Jésus. Nous croyons qu'il est la deuxième personne de la très sainte Trinité, qu'il est venu en ce monde en traversant le sein de Marie. Nous le reconnaissons comme le Rédempteur de tout l'univers, qui par son sacrifice sur la croix nous a ouvert les portes de la vie éternelle où il nous attend tous un jour pour une fête sans fin. Nous croyons que Jésus est vivant actuellement, avec son corps glorieux dans le ciel, aussi vivant qu'il apparut sous les yeux éblouis et tout neufs de Bartimée. Croyez-moi, mes frères, ce pauvre mendiant, aux pupilles atrophiées, mais à l'intelligence très ouverte, savait au plus intime de lui-même que Jésus était le Messie. Et en le criant sur tous les tons, il a touché le cœur du Christ. Et c'est parce qu'il le savait par la foi qu'il a balancé son manteau, sa seule richesse peut-être, pour courir se jeter aux pieds du Sauveur. Et nous, mes frères, mettons-nous bien cela dans la tête et dans le cœur. Le Christ ne nous entend et ne nous exauce que s'il nous voit courir vers lui en grande confiance, que s'il perçoit nettement que nous le reconnaissons comme notre Messie, comme notre Dieu, comme notre salut. Le cœur du Christ s'attendrit sur la confiance qu'on lui donne. C'est dire que sans cet élan, sans cette spontanéité de la foi, cette clarté de cœur qui se lance et qui fait confiance, le ciel restera d'airain. Le Christ demeurera silencieux, car encore une fois, il ne répond qu'à l'amour, il ne répond qu'à la foi. Je me souviens de cet ami prêtre, originaire de Croissy. Il habitait la ville de Sisak au moment de la guerre, qui opposait son pays à la Serbie, vous vous en souvenez, dans les années 95. Voilà ce qu'il m'avait raconté. L'évêque de son diocèse avait donné l'ordre à tous les prêtres de transporter les œuvres d'art, tableaux et statues, dans la crypte de la cathédrale, de manière à les protéger. Il avait obéi, du moins en partie, car il avait gardé dans son église la statue de saint Antoine de Padoue. Une nuit, et durant toute la nuit, la ville est sauvagement bombardée par des tirs aériens. Au matin, le prêtre se rend sur sa terrasse et constate avec effroi que la ville n'est plus qu'un champ de ruines fumant. De rage, oui mes frères, de rage, il descend dans l'église et face au tabernacle, hors de lui, et en pleurs il se met à crier « Mais Seigneur, mais où donc es-tu? Pourquoi laisses-tu triompher la barbarie? Mais que fais-tu dans ton ciel? Rien, rien, tu ne fais rien !» Puis, se retournant vers saint Antoine de Padoue, le voilà qui le fustige à son tour. « Et toi, toi, toi que l'on appelle le défenseur des pauvres, eh bien bravo, c'est du joli, ton action est nulle !» À ce moment-là, mes frères, une détonation assourdissante ébranle les murs de l'église. Le prêtre a juste le temps de sortir par la porte latérale et de se jeter dans un abri creusé à 3 mètres sous le sol qui avait été préparé. Et là, c'est une pluie de bombes qui s'abat durant 15 minutes au-dessus de sa tête et c'est long. Puis, c'est le silence. Le prêtre attend encore 5 minutes, puis sort de son trou, et là, stupéfaction, son église est intacte, impeccable. À toute vitesse, il en fait le tour. Oui, tous les murs sont debout. Il entre alors dans l'église, se met à genoux, pleure à chaudes larmes, remercie le ciel pour sa réponse, d'autant plus qu'il saura par la suite que son église sera la seule église épargnée de toute la ville. Les 7 autres, ainsi que les couvents et monastères, seront totalement détruits ou fortement endommagés. Pour la petite histoire, figurez-vous que les religieuses du diocèse, transies de peur, et en même temps ébahies par la protection dont ce prêtre bénéficia, lui téléphoneront pour lui demander quelle prière il avait récitée. Et lui de répondre, « Mes sœurs, cette prière, je ne peux pas vous la prendre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle venait non pas de mon cœur, mais de mon ventre. La prière, mes frères, doit jaillir des entrailles, sinon elle court le risque de ne pas être exaucée. C'est donc avec notre ventre, avec nos tripes, qu'il faut croire en Dieu et qu'il faut espérer en lui. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin avec notre frère l'aveugle Bartimée, qui en cet instant, j'en suis sûr, nous fait un beau clin d'œil du haut du ciel pour nous encourager à plus de foi, autrement dit, à plus de confiance, à plus de ferveur. Amen.